France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Je considère, moi, que nous défendons pas seulement une frontière entre le Royaume-Uni et la France, mais aussi la frontière et une des frontières extérieures de l'Europe. 30% de l'immigration illégale de toute l'Europe se retrouve ici, sur cette côte du nord de la France. Il y a le Brexit et malheureusement, aucun des mécanismes migratoires après le Brexit n'avait été reconstruit. Donc, pour moi, c'est un chantier important qui progresse, mais sur lequel nous travaillons pour faire en sorte que demain, il puisse y avoir un cadre, des pistes de travail pour la défense de nos frontières extérieures.
C'était fin février, au Touquet Paris-Plage, Bruno Retailleau prend la parole pour assurer du plein soutien de l'État français et du gouvernement britannique au territoire du Calaisis et Dunkerquois, percuté par les enjeux migratoires. Un exercice quasi obligé depuis des décennies pour tout ministre de l'Intérieur, mettre en scène la coopération étroite avec Londres dans la gestion de la bande littorale de la Manche où se situe la frontière entre le Royaume-Uni et la France, une frontière extérieure de l'Union européenne. Après l'adoption au printemps dernier du pacte asile et migration, les Européens discutent en ce moment même d'un projet de règlement sur les retours, dévoilé ce mardi au Parlement à Strasbourg. Il prévoit la création d'une obligation à quitter le territoire européen valable dans les 27 pays et des centres en dehors du territoire de l'Union pour y renvoyer les migrants expulsés. Pendant ce temps, à la frontière, les exilés sont toujours là et attendent de tenter le passage. Nous avons voulu savoir ce que produisait concrètement cette frontière et comment, malgré tout, Calais reste un territoire solidaire. Au sommaire de 12 France, une heure de reportage en immersion. Calais, chronique de la solidarité. Venez, je vous emmène. Fin février, toujours, Bruno Retailleau est donc au Touquet. Et moi, je prends la route pour Calais. 3 heures de voiture depuis Paris et une arrivée sous une pluie battante et dans un froid humide et perçant. Entrer à Calais, c'est vivre physiquement la matérialité de la frontière avec l'Angleterre. Cette frontière fabrique le paysage, un paysage violent, austère et rude. La dernière fois que je suis venue ici, c'était en 2018, et depuis, le paysage a encore changé. Ici, depuis 25 ans, on a construit des ersatz de fortifications, des murs de 4 mètres de haut, encore des murs, parfois entre les murs, surmontés de 36 000 km de barbelés pour protéger l'accès au port, aux ferries, aux camions et aux tunnels sous la Manche. Des drones, des dispositifs anti-intrusion, des bouées sur le fleuve de la Canche, des caméras de surveillance sur les plages, des blocs de pierre partout dans la ville pour empêcher les campements. Une presque prison à ciel ouvert battue par la bruine et le vent. Dans la zone industrielle de Calais, nous sommes à quelques encablures du port. Entre les entrepôts d'entreprises, on croise de nombreux exilés en grappe qui marchent vers les structures des nombreuses associations qui leur viennent en aide. C'est ici que des élèves du lycée Raoul Follereau de Nevers ont décidé de passer une partie de leurs vacances scolaires. Morgane, Avista, Salma, Juliette, Gabriel et Pierre ont 17 ou 18 ans. Ils participent à un atelier sur les droits humains organisé par leur lycée avec la section nivernaise d'Amnesty International. Pour la première fois depuis sa création, cet atelier est délocalisé. Ces jeunes bénévoles sont dispatchés sur ces quelques jours dans des associations d'aide aux exilés à Calais. Au Secours catholique cet après-midi-là, je fais la connaissance de Salma, Davista et Pierre.
Moi je m'appelle Salma Al-Sahar, mes parents sont tous les deux d'origine syrienne, mais mon père est arrivé pour faire ses études à Versailles à 18 ans. Et ma mère est arrivée plus tard lorsqu'elle s'est mariée avec mon père. Ils ne sont pas arrivés dans le cadre de la fuite de la guerre, par exemple, mais c'était juste parce que la dictature de Assad ne leur plaisait pas. Et je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui ont dû faire ce même voyage que ces migrants pour arriver en France. Et ça m'a toujours tenu à cœur d'apporter mon aide parce que je pense qu'on est vraiment très privilégiés en tant que Français et Françaises. Et voilà.
Moi, je m'appelle Avista. Je suis née en Syrie, mais je suis kurde de la Syrie. Et j'ai fui la guerre quand j'avais 5 ans. On a déménagé en Turquie. Et on est resté en Turquie pendant 6 ans, 7 ans. Sauf que mon père, il a toujours été politicien pour les droits kurdes. Et on a dû quitter la Turquie parce que c'est un régime autoritaire. Et donc, on a demandé asile en France. Et on a eu une réponse au bout de 2 ans et demi. Et donc, on a pu venir en France. Et donc, mon père, il est réfugié politique. C'était en 2018. Et là, actuellement, on est en 2025. J'ai 17 ans, pardon. Et ça fait 6 ans que je suis en France. Il y a beaucoup de personnes de ma famille, vu qu'on est des Syriens, qui sont passées par la mer. Mais énormément de personnes. Et je me suis dit que ça me tenait à cœur. Et surtout que ça fait mal au cœur. Et c'est un problème qui nous désespère un peu. Parce que quand on voit que, à part leur donner un peu de nourriture et les aider, on peut rien faire. Parce que le problème, en fait, n'a pas de... C'est un cycle infini, un peu. Mais on se dit quand même que vaut mieux se confronter à la réalité plutôt que de vivre dans sa bulle un peu et de croire que le monde est en rose, en fait. Enfin, je sais pas.
Et toi ?
Ouais. Moi, c'est Pierre. Moi, je suis venu parce que j'ai déjà fait un peu de bénévolat dans la Nièvre.
C'était où ton bénévolat ?
Bénévolat dans l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Nièvre. Sur des événements, je faisais du bénévolat. Et donc, ça me faisait de fou. J'aime bien le contact des gens. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, j'y vais. On m'a proposé ça au lycée Ralph Lauro. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. Hein. Je vais pas dire non, ça sert à rien. Quitte à aider des gens, je vais dire oui. Hein. De toute façon, c'est une expérience. Hein. Ça va être que du positif. Et donc, je suis arrivé. Et là, ça me plaît de fou. Bon, après, quand même, ça fait de la peine. On a fait des maraudes avec l'association Salam. Donc, on a distribué du pain avec de la mayonnaise, de la confiture, des bananes, des chips. Des viennoiseries. Et moi, j'ai distribué le café et le thé. Et du coup, j'ai appris plein de petits mots. Je peux le dire ou pas ?
Ouais.
Je sais que le lait, on dit Halib, c'est ça ? Café, on dit Karwa.
Oui. Il est trop fier de lui.
Depuis la semaine, j'ai dit que ça. J'ai que 3 mots à bouche, c'est ça.
Non, mais dis thé. T'as oublié thé ?
Ah, le thé. Chai. Et du coup, en vrai, moi, ça me plaît trop. Et j'étais là, j'en donnais. Voilà, c'était incroyable. Mais bon, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, ça fait bizarre. En fait, ça fait vraiment bizarre de voir des gens de son âge devant soi. Tu dis, oh, moi en fait, j'ai une vie. Parce que des fois, on se plaint tous, on est là. Oh, vas-y, c'est quoi mon père, vas-y, il m'a dit ranger ma chambre, vas-y, ça me saoule. Alors qu'il y en a, ils sont là, ils ont même pas de chambre, ils ont même pas de toit.
Ils vivaient où, ceux que vous avez vus en maraude ?
Alors, soit vraiment en pleine nature, avec des tentes. Je sais que le premier endroit où on va, il y a des tentes, c'est plutôt des tentes. Et le dernier endroit où on va, c'est un gros hangar où il y a plein de gens au même endroit, type des centaines, je pense au moins 200, 300 au même endroit.
Ça, c'est super triste, c'est qu'à Calais, il y a un seul point d'eau et de toilettes. Ça veut dire que les gens, ça s'appelle le squat, où il y a plein de personnes, c'est des hommes notamment, qui dorment dehors. Et donc, il n'y a pas de toilettes. Et ça veut dire qu'il y a des coins où il y a plein de déchets d'humains, enfin, des gens qui ont fait leur toilette, quoi.
Quand on faisait les maraudes, par exemple, on leur donnait à manger et c'était vraiment à la chaîne. Il y avait des... Là, sur un endroit, on a donné à manger à plus de 200 personnes, à la chaîne. Et donc, on ne connaît même pas leur prénom. On leur donne à manger, on ne connaît même pas leur prénom. On ne connaît même pas leur histoire. Puis c'est horrible, quoi. C'est horrible. Je sais pas comment dire. Ça, c'est l'humain, quoi. Ça nous touche.
Non, mais on a entendu qu'à l'auberge des migrants, il y avait des gens qui... Vous savez, il y a des conteneurs d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau pour les migrants. Et il y a des gens qui s'amusaient à mettre des crottes de chiens dans l'eau, qui empoisonnaient les migrants, quoi. Et puis il y a des gens qui envoyaient des t-shirts avec des insultes pour les migrants. Mais je me dis, ça prend de l'énergie et du temps pour faire ça, pour juste détester les gens. Et je pense que le plus grand responsable de cette animalisation, de cette déshumanisation des migrants, et puis de toutes les victimes, soit de quelconque situation, c'est la peur et la haine. Enfin, plutôt la peur qui se transforme en haine, je sais pas. Parfois, ça arrive qu'on travaille avec des gens et on a parfois des réactions un peu bizarres d'eux. Enfin, des réactions du genre, voilà, ils les voient un peu comme inférieurs, en mode dangereux, pas très fiables. Par exemple, nous, en tant que jeunes, on était 6 et on en discute tous les soirs parce que nous aussi, on s'enregistre avec un truc dangereux. Et donc, on discutait, on se disait, mais c'est pas possible. Moi, quand je les vois, j'arrive pas à me voir au-dessus d'eux. J'arrive pas à les voir comme plus débiles, plus moins intelligents, moins capables, moins civilisés. C'est ça, en fait, c'est ce plus grand problème. On les voit comme des animaux qui savent pas vivre en société. Alors que pas du tout. Il y en a plein d'entre eux, c'est des ingénieurs, ils ont fait des études, mais ils se retrouvent ici. C'est pas de leur faute. Enfin, il y a la guerre dans ton pays, il y a la pauvreté, tu peux pas vivre, tu vas t'enfuir.
Salma, t'en penses quoi ?
moi, je suis totalement d'accord avec Avista. Moi, s'il y a vraiment un point qui m'a bouleversée, qui m'a choquée pendant ces expériences-là, c'était le fait qu'ils étaient vus comme des personnes très agressives et qui pouvaient à tout moment semer le chaos, alors que c'était juste des personnes qui faisaient l'accueil et qui attendaient qu'on leur donne un bout de pain avec de la confiture ou de la mayonnaise, ou les deux. Et par exemple, moi et Avista, on parle toutes les deux l'arabe. Et ces personnes-là, je pense qu'elles ont trouvé un certain réconfort à discuter avec nous, à se sentir comprises, à se sentir entendues. Et nous, c'était pareil, on avait besoin de leur parler, besoin de savoir qui était devant nous. Et on nous mettait tout le temps des barrières, on nous disait tout le temps de pas forcément trop leur parler, que ces personnes-là pouvaient devenir dangereuses, que je sais pas, il y a eu des remarques qui m'ont personnellement choquée. Après, je vais pas toutes les citer parce que je pense que les personnes qui nous ont dit ça ne se rendent pas forcément compte du poids de leurs paroles et du poids que nous, ça nous fait. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup choquée et bouleversée parce que pour moi, c'est des humains comme nous. Et ils sont juste là pour manger et c'est déjà très humiliant pour eux. Alors, il ne faudrait pas aggraver la chose en les considérant presque comme inférieurs et en nous interdisant presque de leur parler, quoi.
Par exemple, là, il y a plein de gens qui parlaient arabe et dès qu'ils nous ont entendu parler arabe une fois, ils sont venus nous parler. Ils nous ont juste posé des questions du genre, où est-ce qu'on peut avoir une tente, j'ai plus de chaussures et tout. Des questions comme ça. Sauf que malheureusement, ça fait mal au cœur parce qu'on n'avait pas forcément des réponses, mais on a essayé de les aider en mode, faut poser des questions à ce monsieur-là, faut aller voir ce monsieur-là. En fait, je pense que c'est déshumanisant, surtout le fait qu'on leur parle pas.
Oui.
En fait, on prend même pas le temps de leur parler. Et je sais qu'on peut pas juste s'asseoir et leur parler et leur faire de la thérapie pendant 6 heures, mais genre juste, c'est ridicule. En fait, on dirait les discours de RN un peu Bardella. Oui, non, les migrants, le plus grand pourcentage de viols, c'est des migrants qui l'ont fait. C'est trop pas réfléchi et c'est trop basé sur la peur. Parce que quand on apprend à les connaître, ils sont pas comme ça. Enfin, par exemple, regardez, moi, je suis immigrée aussi. Quand je suis arrivée, j'étais comme eux. Enfin, je suis normale, je pense. Je suis humaine. Je sais m'adapter, je sais m'intégrer dans la société. Et eux, ils sont comme ça. Quand on leur donne l'opportunité de travailler, de parler et de s'intégrer, ils savent s'intégrer.
À Calais, on compterait un millier de migrants sur le territoire, selon la préfecture de police. Depuis 1999, les arrivées sont constantes, malgré les multiples tentatives de les freiner. Calais, c'est une frontière extérieure de l'Union européenne, comme Lampedusa ou Lesbos face à la Turquie. Par les accords bilatéraux dits du Touquet, signés entre la France et la Grande-Bretagne en 2003, la frontière a été fixée ici, sur le sol français. En 1999, pour faire face à ces arrivées, l'État réquisitionne un hangar de 27 000 m² appartenant à Eurotunnel, à Sangatte, petite commune limitrophe, pour y installer un camp aux normes internationales. 3 ans après son ouverture, le centre est supprimé sur décision de Nicolas Sarkozy. « Nous mettons fin à un symbole d'appel d'air de l'immigration clandestine dans le monde », dira le ministre de l'Intérieur de l'époque. En 3 ans, 70 000 migrants y sont passés. Calais, à 8 km de Sangatte, deviendra dès lors leur gare d'arrivée, le point de départ des ferries vers l'Angleterre et du tunnel sous la Manche. Peu à peu, sur un terrain vague, qu'on appelle la Lande, un véritable village naît, avec ses commerces, ses coiffeurs, une école, un théâtre, au milieu des tentes, une ville dans la ville organisée en nationalité, un bidonville, qu'on nommera la jungle. Au plus fort, on y comptera plus de 10 000 personnes. En 2016, la jungle est démantelée, mais depuis, peu de choses ont changé. Des campements régulièrement détruits par les forces de l'ordre ont fleuri dans les interstices de la ville, les terrains vagues ou dans les entrepôts abandonnés de la zone industrielle. Le Secours catholique fait partie de ces associations historiques. Cet après-midi-là, comme d'habitude, un accueil de jour permet de recharger son téléphone, de se protéger de la pluie ou du froid, d'avoir un bout de repas et peut-être un peu d'aide pour les papiers. Il fait 3 degrés, la pluie tombe drue. Ils sont des centaines d'hommes à tenter de se protéger dans ce hangar. Ici, on parle arabe, farsi, anglais, parfois allemand ou français.
En français ?
Oui,
en
français. En français, Deutsch, Deutsch.
Dis-moi.
What's your name, journalist?
I'm Nora.
Nora, yes.
Nora, I'm journalist for the French public radio.
Yes.
It's called France Culture. And I'm making a report
yes.
about solidarity in Calais.
No,
Je viens de Syrie. J'ai quitté mon pays et je suis venu ici à Calais. Je respecte ce pays. Mais il y a un problème. Le problème, ce sont les tentes de fortune. Si vous en voulez une, vous devez attendre une dizaine de jours. L'autre problème, ce sont les policiers. Ils viennent ici tous les jours. Ils prennent les tentes. Il y a beaucoup de monde. Environ 100 personnes vivent sous le pont de Calais. Et quand les policiers viennent ici, ils prennent les tentes. C'est pour ça que moi ou mes amis, on dort dehors. Il y a beaucoup de vent, vous savez. La tempête est très, très, très froide. Et le temps est glacial la nuit. Alors quand les policiers prennent les tentes, c'est une galère. Nous ne pouvons pas dormir dans un appartement, nous ne pouvons pas louer un appartement, rien. Beaucoup de gens sont très malades parce qu'il fait très froid. Alors j'aimerais bien trouver une solution. Il y a environ 3 jours, les policiers ont attrapé tout le monde dans les rues. Maintenant, je dois faire des courses, mais j'ai peur d'aller au supermarché. J'ai peur qu'il m'embarque au poste pendant 24 heures. Quand je suis arrivé en France, je pensais que les Français étaient bons et très humains. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert l'oppression policière.
Je suis palestinien. Syrien, Yémen. Et toi, palestinien? Ah, ok. Where are you from in Palestine?
Gaza.
Tu viens d'Irak?
Tu viens d'Irak? Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Hamza.
Et tu as quel âge, Hamza?
27.
Tu es arrivé il y a longtemps?
Ouais.
Combien de temps?
6 ans. À Strasbourg, j'étais à Strasbourg.
Ouais.
Et je sortais à la guerre en Irak. Et maintenant, je suis dans la galère.
Tu es depuis longtemps à Calais?
Non, une semaine.
Et tu veux aller en
Angleterre?
En Angleterre?
Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas de sélection ici. Il n'y a pas de choix. Je sais, c'est possible que je meure là-bas, mais je n'ai pas de choix.
Tu es prêt à faire ça en bateau?
Ouais, parce que je n'ai pas notre sélection, je n'ai pas le papier. Ouais.
Tu as de la famille en Angleterre?
Non, j'ai la famille en Alsace, en Strasbourg. Il a pris le papier, mais moi, je n'ai pas pris le papier parce que je suis majeur.
Ils t'ont pas donné les papiers à toi alors que tes parents, ouais, ils ont eu?
Ouais. Mon parent et mon frère, mon petit frère, il a pris le papier, mais pas moi. Parce que je suis majeur. C'est très compliqué pour moi.
Et c'est dur en plus parce que là, c'est il fait froid, dur. Il pleut.
Oui, c'est très dur. Il fait froid, il pleut. C'est dur, c'est très dur. Ouais, même la guerre, c'est pas dur comme ça. Ouais, parce qu'on sait c'est comment la guerre et c'est comment on arrête la guerre et comment on fait à la guerre, comment on cache où. Mais ici, on sait rien parce qu'on mange rien. Je sais pas quand il fait froid, je sais pas quand il a plu. Ouais.
Et tu vis où ici à Calais? Comment tu te débrouilles?
Ah, je dors chez quelqu'un. Hein? Il m'a pris parce qu'il m'a trouvé à la rue et il m'a dit viens chez moi, c'est mieux que la rue. Je partais avec lui et maintenant je dors chez elle et c'est mieux.
Traverser la Manche à tout prix pour rejoindre l'Angleterre, quoi qu'il en coûte. Depuis 2018, les naufrages se sont multipliés. En novembre 2021, 31 personnes sont mortes lors d'une traversée sans que personne ne leur vienne en aide malgré leurs appels. Un choc à l'époque. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, avait promis le président de la République, Emmanuel Macron, le jour du drame. Si la Méditerranée centrale reste la route migratoire de loin la plus mortelle, avec près de 30 000 décès recensés depuis 2014 par l'Organisation internationale des migrations, désormais, ce phénomène gagne la Manche. En 2024, on a compté 37 000 passages, au moins 77 décès et une vingtaine de naufrages. Ces petits bateaux de fortune partent désormais du Touquet, de Boulogne-sur-Mer ou encore de la baie de Somme, à 200 km de Calais. Au Secours catholique, le centre fonctionne grâce à des bénévoles. Ils viennent donner du temps, une journée ou une après-midi.
En fait, le mercredi, je viens toute la journée, toutes les semaines, toute la journée. Le mercredi matin, je le consacre à l'allée verte. Ce qu'on appelle l'allée verte, c'est des maraudes, essentiellement des maraudes informatives. On distribue aux exilés qui sont sur les lieux de vie autour de Calais ce qu'on appelle le NAG, le New Arrival Guide, pardonnez mon anglais. Le guide des nouveaux arrivants, de manière à ce qu'ils sachent à quelles associations s'adresser pour tous les services dont ils peuvent avoir besoin, nourriture, douche, vêtements, etc. Et donc, mon action, elle se fait, moi, auprès de l'association du Secours catholique. Moi, je suis du Calaisis, j'habite à une vingtaine de kilomètres et j'ai très tôt côtoyé les migrants alors que professionnellement, je quittais un lieu qu'ils ont investi, le premier hangar à Sangatte. Et je me suis inscrite auprès du Secours catholique parce que j'étais sans emploi et que je voulais faire quelque chose de positif de mon temps libre. Et donc, c'est ainsi que désormais, effectivement, je m'implique au minimum une journée par semaine. Et donc, quand vous m'avez vue sous la pluie tout à l'heure, j'étais autour du point hygiène et lessive. Entre autres services que peuvent trouver les exilés lors des accueils de jour, on a donc, on voit leur possibilité de pouvoir faire un petit peu de lessive. Tout ça à l'eau froide, malheureusement. On n'a pas les moyens au Secours catholique de leur procurer de l'eau chaude. Mais ils peuvent donc laver leur linge, prendre une douche à l'eau froide. Alors ces temps-ci, ce n'est pas ça du tout. Ils peuvent recharger leur téléphone, enfin un tas de petites actions de colibri que nous leur offrons au quotidien.
C'est quoi votre prénom ?
Françoise.
Françoise, vous avez connu la jungle ?
Oui. À l'époque de la jungle, j'y ai juste mis les pieds une fois, un soir, pour raccompagner des exilés. Et je me souviens y avoir acheté des spartiates qu'ils fabriquaient alors en pneus. Voilà.
Est-ce que ça a changé maintenant que la jungle est démantelée ? C'est plein de mini-jungles partout ? C'est toujours la même situation ?
Ouais, plein de mini-jungles qui sont régulièrement évacuées pour se reconstituer très vite derrière. La police intervient toutes les 48 à 72 heures pour déloger les personnes, pour éviter les points de fixation que redoute le maire de Calais.
Et y a moins de monde, diriez-vous ? Enfin, c'est toujours pareil ? Vous avez le sentiment que entre Sangatte et la grande jungle, ce grand village de l'époque et aujourd'hui, ça a bougé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense que le nombre est à peu près stable et que la majorité des exilés qui passent par Calais ne viennent pas à Calais par gaieté de cœur, mais juste pour traverser la Manche et trouver l'Eldorado attendu de l'autre côté, en Angleterre.
Voilà, c'était Françoise, bénévole au Secours catholique. Le Secours catholique qui est coordonné par Antoine, qui coordonne donc l'accueil et les bénévoles.
Alors, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui sont du CRU, des personnes calaisiennes qui sont souvent retraitées, qui ont passé leur carrière professionnelle un peu loin de la cause des personnes exilées, et puis qui se retrouvent à avoir un peu de temps à donner, du coup qui nous filent un coup de main. Il peut y avoir aussi des militants associatifs d'autres associations ou collectifs qui viennent nous filer un coup de main aussi. Et puis il y a une part non négligeable aussi de personnes en exil qui elles-mêmes viennent du coup donner un peu de leur temps pour aider leurs amis, leur communauté à justement pouvoir échanger avec nous via un travail de médiation, soit dans l'accueil tout simplement avec le service de thé, café, avec de l'aide sur les distributions. Enfin voilà, c'est des personnes qui prennent énormément de responsabilités dans l'accueil au quotidien des personnes exilées et sans lesquelles on pourrait difficilement opérer en réalité. Et Calais, c'est un espace parfois un peu miraculeux dans les scènes du quotidien, l'entraide générale qu'on peut voir ici qui est vraiment rarement décrite parce que ça ne soigneraient en aucun cas leur agenda, voilà, de décrier un peu ces personnes. Et donc, je leur demanderai de venir peut-être nous voir avec toute la bonne foi possible pour qu'ils et elles se rendent compte, tous ces décideurs, qu'il y a une autre voie qui est possible et qu'ici on la vit au quotidien et que ça, ils le savent sûrement, mais que ça les intéresse pas, quoi. Voilà. Faut pas nier non plus que Calais, c'est une ville extrêmement pauvre. Enfin, et on l'entend à tort et à travers qu'en fait, à Calais, les personnes souffrent de la situation à force de voir des personnes exilées et autres. Mais bon, à Calais, les personnes, elles souffrent aussi énormément de la précarité, elles souffrent énormément du chômage, elles souffrent énormément, enfin, des politiques néolibérales, des pertes d'emploi, de la désindustrialisation et de toutes ces choses-là. Et enfin, c'est presque oublier tout le sort qui s'acharne sur ces Calaisiens, Calaisiennes, que d'omettre ça dans l'analyse, quoi. Et que du coup, cette entraide-là, elle est d'autant plus belle que, en fait, Calaisiens exilés sont un peu souvent dans cette ville livrés à eux-mêmes et ensemble un peu dans la même galère. Mais c'est aussi cette histoire-là qu'on a envie de raconter ici et qu'on voit au quotidien. Voilà.
Comme chaque soir, pendant leur semaine de bénévolat, une réunion est organisée avec les lycéens. Une manière d'exorciser les émotions suscitées par leur expérience et de s'interroger sur les suites concrètes à imaginer chez eux, dans la Nièvre. Une réunion animée par les accompagnateurs, Patrick d'Amnesty International et Béatrice. La Nièvre, c'est un département qui a accueilli des Syriens en 2015. Et sur cette terre historiquement socialiste, fief de François Mitterrand et de Pierre Bérégovoy, le vote Rassemblement National y atteint désormais des records, 50,76% aux dernières législatives.
Moi, j'ai pas passé un super après-midi. Par rapport au matin, là, je me suis sentie vraiment impuissante. Parce que du coup, moi, je tenais les joggings. Donc, tout le monde en demandait, tout le monde en voulait. Ce qui fait super froid. Puis même quand on distribue, on se rend rapidement compte qu'en vrai, qu'on va pas avoir de stock. Et que la file, elle s'allonge de plus en plus au fur et à mesure. Et ils se préviennent tous entre eux. Mais en tout cas, on essayait de se dépêcher et de trouver des choses qui leur convenaient. Mais au fur et à mesure, en fait, il n'y avait plus rien qui leur convenait. Mais en fait, ils disaient bonjour, ils disaient au revoir. Ils te les prenaient quand même. Toi, tu pouvais rien faire. Tu leur disais juste des mots de courage et puis ils te regardaient avec des grands sourires. Il y en a même certains qui faisaient des blagues dans la file, entre eux. Parce qu'en fait, il n'y a pas... On pourrait se dire que comme il y a un manque de stock, que les personnes, elles se battraient pour avoir ce truc-là. Mais en fait, il n'y a pas du tout, ce lien-là. Il y a vraiment un lien entre les personnes. Et ce qui m'a le plus heurté, en vrai, je pense que c'est les chaussures. Parce que l'état du sol, il était vraiment énormément boueux. Puis c'était des sandales, c'était même des chaussures déchirées. Enfin, c'était compliqué. Enfin, de se sentir surtout impuissant par rapport à ça.
Mais pas de pudeur sur ton émotion, tu sais, moi, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions maintenant. Depuis des années de militantisme, dans des choses difficiles, moralement, c'est dur. Et vous avez, je crois, certains rencontré à Salam un bénévole qui vous a dit la même chose, que la charge psychique, elle était difficile et qu'il avait dû lui aussi se recadrer, se replacer différemment, être moins sur le terrain, parce que c'est très lourd à porter. Donc, ton émotion est tout à fait légitime et non.
Vous vous attendiez à cette émotion-là ?
Un peu, ouais. Je pense que je suis quelqu'un de naturellement sensible. J'ai déjà eu affaire à ce genre de situation là où j'habite. Enfin, parce que je fais du bénévolat au Secours Populaire, mais c'est pas du tout le même cadre. Je pense voir les images en vrai, le vivre, puis parler à ces personnes-là. J'avais besoin, je crois, d'essayer de les comprendre. Je sais pas si on peut vraiment se mettre à leur place. Moi, je crois que je pourrais jamais parce que je connais pas cette misère-là. Je suis pas... Si c'est pas trop trash de dire, je suis née du bon côté de la frontière et pas eux, quoi. C'est juste ça. Et ça, j'avais besoin de le voir.
Alors moi, je suis à Vista. Aujourd'hui, ça s'est mieux passé, entre guillemets, que les deux premiers jours. Le temps nous a vachement aidés. Et c'est vrai que, par exemple, les deux premiers jours, on est frappé par l'émotion, comme a été Juliette. Alors que... C'est très triste de le dire, mais le troisième jour, on s'habitue un peu à avoir cette situation, même si ça nous fait très mal au cœur. On est impuissant. Finalement, à part cette aide qu'on apporte, on peut rien faire pour résoudre la situation. Et on se rend compte à quel point les médias les diabolisent. On se rend compte à quel point ils se font passer pour les méchants dans l'histoire. Alors que c'est des personnes qui sont finalement qui cherchent de l'espoir et qui cherchent un foyer comme tout le monde.
Je suis prof de sciences économiques et sociales, donc la politique, les questions sociales, les problèmes de société, ça m'interpelle. Mais je suis comme eux, finalement. Je vois ça aussi à travers les médias, je vois ça à travers mes disciplines, mais je n'ai pas forcément la réalité de terrain, donc c'était intéressant de faire la même expérience qu'eux.
Et c'est le rôle de l'éducation nationale, de l'école d'élever aux droits humains.
Ça me semblerait bien obligatoire, oui. Ça me semble un bon point de départ pour commencer de sensibiliser à la citoyenneté. Ça, c'est la base.
Surtout dans un territoire qui glisse vers le Rassemblement national de plus en plus.
Oui. Et puis moi, c'est une de mes inquiétudes. On ne sait pas quel discours on peut tenir ou quelles actions on peut mener pour leur ouvrir les yeux sur cette réalité.
Je vous voyais hocher de la tête. Vous en avez autour de vous typiquement, c'est le...
Je pense qu'ils auraient fait une semaine comme nous. Je pense qu'ils auraient vite changé d'avis.
Tu crois?
Parce qu'ils auraient bien été contents qu'il y ait des gens qui les aident s'ils sont à la même place que les migrants.
Non, mais la plupart, ouais. Ils sont bien endoctrinés quand même. Hein.
Ouais. Mais après, moi, Patrick, il a dit que c'était important de montrer la réalité aux jeunes. En fait, je pense que c'est important de montrer la réalité à tout le monde. Et moi, je le vois dans mon village, parce que mon village, tout le monde se connaît. Les grands-parents connaissent les enfants. Nous, on a quasiment 60% de vote pour le Rassemblement National. Les villages alentours, ils sont à 65%. En vrai, on passe pas RN grâce à Bourges, parce que, en fait, plus les zones, elles sont... C'est des villes. Plus les zones, elles sont éduquées, et moins on vote à l'extrême droite.
Toi, ce que tu constates, c'est que dans ton village, aujourd'hui, 60% des gens pensent et votent Rassemblement National.
Oui, et pas que les personnes âgées. Des personnes jeunes, des personnes que je connais.
Et ils te disent quoi? C'est vraiment l'immigration derrière?
C'est vraiment l'immigration.
Mais est-ce que vous pensez que l'expérience que vous êtes en train de vivre ici et que vous allez présenter à vos camarades, est-ce que ça peut suffire?
Non. Tant qu'on montre pas la réalité,
exactement. Ouais. Parce que là, on parle, mais on parle dans le vent, il faut le dire.
Oui.
Parce que là, ils vont écouter ça, ils vont se dire, ok, c'est bien.
Ah,
ok, c'est bien, juste, je vais... Bon, en fait, ça va toucher qu'une petite partie de personnes. Ouais,
la plupart.
C'est déjà ça.
En fait, c'est la répétition.
C'est vraiment.
Et tant qu'il y a une dominance des idées négatives sur cette personne-là, des préjugés sur les migrants, et ben, je pense que notre discours à nous, il peut pas passer au-dessus cette dominance-là. En fait, on se rend compte qu'on se laisse influencer super facilement par tout notre environnement. Enfin, il y a quand même un biais qui fait que plus une chose nous est répétée et plus on la voit souvent, et en fait, plus on commence à y croire. Et c'est pour ça que je dis notre discours, il sert à rien tant qu'il n'est pas complété par d'autres discours encore plus forts, et tant qu'il n'est pas relayé par des personnes qui ont une influence. Parce que, en fait, là, on est sur une bataille d'influence. Hein. Et la vérité, malheureusement, évidemment qu'on essaye tous de la trouver. Mais elle peut pas forcément triompher, elle peut pas écraser tout, en fait.
Je vous jure, je me sens comme en philosophie, on fait la vérité et l'opinion. Oh, le discours de Morgane, l'opinion écrase la vérité. Oui, oui.
Mais moi, je trouve que depuis qu'on est là, on voit aussi plein de gens qui dégagent une énergie énorme et qui font des choses incroyables. Et on voit beaucoup de gens s'investir, beaucoup de jeunes. Ce matin, on parlait avec une personne à Utopia 56. Elle m'expliquait qu'elle faisait 3 nuits par semaine. Je me suis dit, mince, quoi, 3 nuits par semaine, c'est énorme. C'est fou comme engagement, c'est vachement prenant. On nous disait qu'à l'auberge des migrants, on est allé chercher un véhicule qui était en panne, en débarrasser un autre. Ils travaillent avec un garagiste qui leur fait pas payer les réparations. Donc il y a aussi énormément de gens qui sont hyper dévoués et engagés. Et il faut le dire, on a rencontré que des gens super.
vraiment des gens incroyables. Hier, on a parlé de Yolène à ces personnes fantastiques, quoi.
Incroyable. Oh. Ouais. Depuis 1998, elle fait ça. Je trouve ça vraiment fou. Et en plus, avant ça, elle m'a raconté qu'elle travaillait en EHPAD. Donc déjà, les gens qui travaillent en EHPAD, c'est des gens sacrément généreux. Et je trouve ça fou. Ça, c'est pas fou, vraiment. Ça. Yolène, franchement, j'ai failli craquer une fois, et c'est quand j'ai dit au revoir à Yolène. Vraiment, j'étais malheureux de quitter Yolène. Et vraiment, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, Yolène, plus tard, si je peux, vraiment, je reviens te voir.
Et c'était réciproque, je peux le dire, parce que j'ai vu Yolène s'isoler, émue, de les voir partir.
Alors qu'on était là depuis 2 jours, quoi.
Et j'étais... Elle nous a dit, vous êtes des gens extraordinaires.
Oh non, Bichette. Bichette.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous subissons cette situation et je tiens à rappeler que ce sont les Calaisiennes et les Calaisiens qui la subissent et qui la supportent. En fait, nous n'avons rien obtenu, aucune compensation ni aucune garantie sur la fermeté du gouvernement britannique, rapporté en fait à sa législation du travail, qui est bien en fait l'aspirateur du fait que les migrants arrivent en masse en Angleterre. On se contente de dire que les flux diminuent, alors que c'est faux, dans le sens où on a sécurisé un port, on a sécurisé un tunnel, on sécurise nos zones de développement économique. Et on continue à passer à travers la mer et donc on voit très bien que les réseaux de passeurs sont puissants. Ils sont présents ici à Calais et à Loun Plage et nous ne voyons pas en fait les choses avancer.
Voilà, c'était Natacha Bouchard ici au micro de BFM TV fin février en réaction aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en visite au Touquet avec son homologue britannique. Depuis 2003, Londres a régulièrement augmenté sa participation à la sécurisation de la frontière. 543 millions d'euros seront versés sur 3 ans. Maire depuis 2008, Natacha Bouchard compte briguer un 4e mandat dans cette ville qu'elle dit meurtrie et fatiguée par cette impuissance des autorités à gérer cette question migratoire. Calais, c'est 24% de chômeurs, un habitant sur trois sous le seuil de pauvreté et plus de 62% d'abstention aux dernières municipales. Douce France s'est installée cette semaine à Calais, une immersion dans un territoire au cœur d'enjeux pluriels, nationaux, bilatéraux et européens. Retour dans la zone industrielle de Calais, nous sommes dans l'entrepôt de l'Auberge des Migrants, une plateforme logistique et humanitaire pour des associations partenaires. On retrouve Pierre et Gabriel, lycéens de Nevers, tous deux pompiers volontaires dans leur département, qui participent à un projet de bénévolat pendant leurs vacances scolaires. Un projet initié par leur lycée et la section locale d'Amnesty International. Ce matin, ils travaillent au sein de l'association Woodyard.
C'est quoi le...
C'est une boîte de chauffage pour mettre sur les lieux de vie des migrants. On fait des sacs de 8 kilos, là qu'on entasse ça. Et là, en gros, tu vois, on fait des petits bouts de bois assez fins pour qu'ils puissent brûler correctement. On enlève les écorces parce que c'est assez humide. On met tout en sac de 8 kilos et puis après, on va distribuer sur les lieux de vie des migrants.
T'avais déjà fait ça, Pierre ?
Ouais, je fais déjà du bois avec moi.
Ah ouais ?
Je fais le bois pour me chauffer, ouais. Avec mon père et mon père.
C'est vrai ?
Ouais, j'ai l'habitude. Hein.
C'est vrai, t'as l'habitude ? C'est ouais. Vachement physique.
Ouais, mais j'aime bien. Ça
c'est
fait plaisir.
Qu'est-ce que t'aimes bien faire ?
Bah, parce que ça fatigue, justement. Par exemple, je sais que le tri de vêtements, j'aime pas,
pour
ça parce que non, j'aime pas ça. Voilà.
C'est ton premier jour là en plus ici ?
Ouais, c'est ça, c'est mon premier jour aussi. Hein. Mmh. Ouais, j'aime bien. Bah, j'aime bien. Y'a des trucs que j'aime pas trop.
Qu'est-ce qui t'a gêné ?
Les signes ACAB.
ACAB, c'est All Cops Are Bastards. Bastard. Ouais.
Bah, je sais que moi, en tant que pompier volontaire, je suis très très content quand il y a des policiers ou des gendarmes qui sont sur des lieux où il y a des violences contre nous. Et je vois pas pourquoi il y a ces signes-là. Voilà quoi. On dit il y a des préjugés sur les migrants. Et pourquoi faire des préjugés sur la police ? Je trouve ça complètement bête. Je trouve ça idiot à un point, ça m'énerve.
Ouais, on sent que t'es.
T'es
en colère là.
Ah ouais, vraiment. Je crois pas. Je suis totalement contre les violences policières, mais vraiment, mais je trouve ça dégueulasse, ignoble. Mais par contre, qu'on fasse des généralités sur la police, je trouve ça horrible aussi.
t'as dû voir, puisque on en a parlé, qu'il y avait une grosse présence policière sur le territoire.
Ouais.
Comment tu vois cette présence-là pour toi ici et la manière dont les exilés sont traités? Tu l'as vu aussi.
Ils sont traités comme des animaux par les policiers. Parce qu'ils mettent du lacrymo dans leurs affaires pour pas qu'ils puissent remettre leurs affaires par-dessus. Quand ils les retrouvent à la mer, les policiers, ils les emmènent sans les changer, sans les sécher ni rien. Et ils arrivent mouillés, ils sont dans la nature. On trouve ça horrible. Mais c'est pas une raison pour faire des généralités. Voilà.
Tu penses que les policiers, ils sont eux aussi ?
C'est un peu malgré eux, hein. Les policiers, c'est malgré eux. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ça, justement. Je pense que ça fait de la peine à 95% des policiers que des immigrés soient dans une situation comme ça. Et voilà, et eux, ils peuvent rien faire. Parce qu'eux, ils ont aucun pouvoir là-dessus. Je veux dire, ils ont pas de vêtements chauds à leur donner forcément dans leur commissariat ou je sais pas, mais voilà.
Et tu penses que il peut y avoir aussi des formes de racisme dans la police ou chez les pompiers?
Ah ouais, ouais, y en a, hein. Mmh. Y en a, parce que j'en vois. Mais bon, c'est pas une raison. Ouais.
Toi, t'es là depuis combien de temps?
Ça fait 3 semaines que je suis là et je reste encore 3 semaines.
Ouais.
Tu viens d'où? Pour ces semaines. Je viens de Bayonne.
Et qu'est-ce qui t'a conduit à traverser la France pour venir couper du bois dans le froid à Calais?
Me rendre compte que ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Et en fait, ce que je viens faire, c'est certes couper du bois, mais surtout apporter un peu de chaleur aux gens.
Ouais.
Le plus difficile, c'est pas couper le bois. Le plus difficile, c'est d'aller sur les lieux de vie, de se rendre compte que les gens, ils sont pas en train de vivre, ils sont en train de survivre.
Comment t'as pris conscience de cette question, toi, qui t'a conduit du coup à prendre de ton temps pour venir?
Je pense que c'est un peu le contexte politique national où on se rend compte qu'on a quand même une montée de l'extrême droite qui est immense, avec un des piliers de la xénophobie, le racisme, voilà, un peu tout ça, quoi, le fait de ne pas accueillir les migrants. Voilà.
Et c'est ça qui te conduit à t'engager? Ça veut dire que tu as pris des vacances? Comment tu t'es organisé?
Bah là, je travaille plus. J'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour venir aider, quoi.
Et comment tu te sens? Ça fait quoi d'aider?
C'est pas la question que je me pose le plus. Je pense pas à moi à ce moment-là, en fait. Je me dis pas comment ça se passe pour moi. Je me demande plus comment ça se passe pour les gens qui sont dehors. Là, en ce moment, il fait entre 0 et moins 5. Il y a des expulsions tous les 2 jours par les flics. On leur prend leurs tentes, on leur déchire les tentes, on les empêche de vivre, on les rejette. Et à ce moment-là, je pense pas à moi, je pense plus à eux.
Ces 3 semaines, ça t'a... Tu connaissais la situation? Ça t'a forgé un peu plus ce sens du réel, enfin...
Ouais, je connaissais un peu la situation, on se rend jamais compte quand on n'y est pas. Et je sais pas si je vais revenir, mais il y a de nombreuses personnes ici qui étaient engagées pour venir 1 ou 2 semaines et qui sont là depuis 4 ans. Et il y a de fortes chances que je revienne l'hiver prochain. Mmh. Voilà.
À l'autre bout de l'entrepôt, direction la Refugee Community Kitchen, une association britannique qui opère à Calais. Ici, on produit chaque jour des milliers de repas servis jusque dans le Dunkerquois, à 50 km.
Je suis là depuis 1 mois et demi et j'ai encore 2 semaines, donc en tout ça fera 2 mois que je suis là.
Et tu viens d'où ?
Je viens de Amiens, pas très loin, 2 heures d'ici. Donc.
Et comment se fait-il que tu prennes comme ça 2 mois ?
Là je suis en année de césure, donc j'ai du temps. Je voulais voyager en année de césure, mais je voulais aussi faire des choses qui ont un peu plus de sens avec mes valeurs, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. Donc, je trouve que ça fait du bien de rencontrer pas mal de gens qui sont très, très ouverts. Tout le monde est très, très gentil les uns les autres, très bienveillant. C'est vraiment une ambiance ce qui est assez spécial par rapport au contexte ici. Mais d'un côté, tant mieux, c'est que dans la cuisine, c'est vraiment... très chaleureux tout le temps, tout le monde discute avec tout le monde.
Et du coup, t'es hébergée ?
Ouais, moi je suis dans une maison avec d'autres volontaires. C'est cool d'être avec d'autres volontaires et tout, le soir, de pouvoir aussi parler ou faire des petites soirées tranquilles. Ouais, c'est cool.
My name is Kinley.
Je m'appelle Kinley, je viens de Londres.
I've just come out to support.
Je suis venue pour participer à l'assaut pour quelques jours.
Okay. Yeah. I found out about the organization through a friend.
C'est un ami qui m'a parlé de cette asso.
I just really, I thought the work they were doing was just really amazing. And I just wanted to help in any way I could.
Je voulais aider de toutes les façons possibles.
From London.
Je pense qu'à Londres, on peut parfois se sentir impuissant.
You can sometimes feel quite helpless. You see a situation
going
on from afar,
but
you can't actually do anything to help it. So I just wanted to help however I could.
J'avais envie de m'impliquer et cet endroit m'a semblé être là.
I came last year.
Je suis déjà venue l'année dernière.
November.
J'avais passé une semaine.
Okay. My name is Christiana. I'm from Germany.
Je m'appelle Christiana.
And I'm a refugee.
Je viens d'Allemagne et je suis enseignante retraitée. J'ai le temps de venir à Calais plusieurs fois par an. Je viens ici depuis deux ans, je dirais. Et j'en fais à cause de la politique du gouvernement allemand. Je ne peux pas réparer la politique de mon gouvernement. Donc c'est ma façon de résister et de montrer ma solidarité. Et j'ai honte de mon gouvernement. J'apprécie vraiment toutes les assos et tous les bénévoles. C'est une communauté très sympathique, surtout ici, dans la cuisine. Tout le monde est si gentil et si patient. On travaille en équipe. Et c'est vraiment international. J'ai rencontré des Australiens et des Américains.
En fait, je crois que c'est hyper important. Je crois que tout le monde devrait prendre, même si c'est juste un jour ou deux, pour aider les autres, voir la situation des exilés. En fait, je crois qu'on croit qu'on sait, parce qu'on voit, les débats dans la télé, on lire des magasins, un truc comme ça, mais en fait, on sait pas. La situation. Donc je crois que c'est bien important de venir ici parce qu'on se rappelle de ces gens, ils sont humains, ils n'ont pas choisi où ils sont nés et c'est super facile d'oublier ça quand on est chez toi. C'est pour les trucs difficiles, la solution c'est pas simple, mais c'est important de l'approcher avec compassion.
Et pas peur, un coup franc.
À sa création, l'auberge des migrants fut d'abord composée d'habitants qui ont ouvert leur garage pour aider, donner une boisson chaude, un peu d'électricité pour recharger les téléphones ou un abri par temps de pluie. En 2015, l'association décide de louer un entrepôt de 1500 m² dans la zone industrielle de Calais et devient un facilitateur financé exclusivement par des dons.
Alors nous déjà, on part du principe qu'il y a des personnes ici bloquées à notre frontière en France qui sont privés de leur droit d'accès aux besoins primaires, aux besoins fondamentaux pour pouvoir se manger, se nourrir, avoir accès à l'eau, avoir accès à la santé, avoir accès à un toit, ce qui est très difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment d'hébergement. Donc c'est ça le premier constat, c'est on intervient solidairement envers ces personnes pour apporter quelque chose qui n'est pas apporté par l'État. L'État ne couvre pas les besoins, ses besoins, et c'est là que nous, on intervient principalement. Donc on n'a aucune relation dans la facilitation des traversées, etc. Nous, on intervient solidairement pour l'accès aux besoins vitaux. Les besoins sont tellement énormes, on en couvre seulement une petite partie, mais cette petite partie, c'est surtout grâce à la mobilisation citoyenne, que ce soit en énergie, en venant à Calais, en venant soutenir les associations, les activités, en venant cuisiner, trier des vêtements, distribuer des vêtements, couper du bois. Aussi en dons, les citoyens apportent énormément de dons. Tous les jours, on a des gens qui viennent à l'entrepôt déposer des vêtements, déposer des chaussures, etc. Et en dons financiers aussi, pour si on est trop loin et qu'on n'a pas le temps ou l'énergie possible de venir aider directement ici, une des plus grandes aides, c'est de soutenir financièrement pour qu'on puisse continuer à fonctionner au global.
Voilà, c'était Adrien qui coordonne l'association L'Auberge des Migrants. Et le 3 mars dernier, la Cour d'appel de Douai a confirmé l'illégalité des arrêtés préfectoraux de 2020 qui interdisent aux associations de distribuer des repas aux migrants, arguant de prétendus troubles à l'ordre public et de risques sanitaires. Les juges ont estimé que ces arrêtés portaient atteinte à la dignité humaine. Cette décision pourrait ainsi faire jurisprudence. Dans l'entrepôt, Utopia 56, de son côté, fait de la collecte et de la distribution de vêtements. Morgane, lycéenne de 17 ans, est perdue au milieu de dizaines de sacs poubelles de vêtements. Il faut trier, plier, ranger.
Parfois, on sort des vêtements, des sacs, et on se dit, les gars, ils se sont dit, why not ? C'est bien de... Par exemple, on est tombé sur des bottes léopard. à talons. Et on s'est dit, genre les gars, ils se sont dit, on va faire un don, on est trop gentils. C'est super intelligent, ouais, j'y avais pas pensé, why not. C'est super agréable de tomber sur ça, vraiment.
Et t'étais à la distribution, toi, hier ?
Hier, oui, j'y étais. Bah, en vrai, ça s'est bien et mal passé à la fois, parce que du coup, ils sont là, ils demandent des vêtements, ils servent, mais ça se voit qu'en même temps, ils trouvent pas les tailles, ils trouvent pas... On est arrivé en rupture de stock. Et puis, bah, on essaye de faire de notre mieux pour leur donner ce qu'ils veulent, mais c'est toujours pas assez, quoi. Et quand moi je trie du coup les chaussures par exemple qu'ils avaient besoin hier ou des choses comme ça, je suis en mode bah, ils en avaient besoin de ça. Et c'est pour ça qu'aussi ça a du sens de faire le tri au niveau des vêtements, de les plier et tout ça, parce que bah, c'est ce qu'on donne du coup comme hier à ces gens qui eux aussi regardent s'il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit, donc on mâche déjà le travail. Donc ouais, du coup avoir fait la récolte, enfin la distribution plus du coup le tri, ça donne du sens. Parce que j'ai fait les deux, du coup.
Utopia 56 est une association nationale, mais elle exerce dans le Calaisis et désormais tout au long de la côte qui fait face à l'Angleterre. Axel en est le coordinateur.
Nous, Utopia, on va avoir plusieurs actions ici à la frontière. On est présent dans d'autres villes en France, mais c'est assez spécifique ce qu'on fait sur Calais et sur Grande-Synthe. Donc on a une mission 24 heures sur 24, donc une équipe sur le terrain avec un téléphone d'urgence sur lequel les personnes exilées peuvent nous contacter pour tout type de besoin. On va soit réorienter les personnes vers les autres associations qui sont plus compétentes que nous, soit directement se rendre sur place pour essayer de trouver des solutions d'hébergement en passant toujours via le droit commun. Malheureusement, les dispositifs d'hébergement de droit commun sont sous-dimensionnés et donc on est souvent sans solution. Donc ça va être la distribution soit de matériel pour que les gens puissent passer la nuit dehors dans les meilleures conditions possibles, soit mobiliser notre réseau d'hébergeurs et d'hébergeuses citoyens. Ensuite, on va avoir les missions de maraude sociale, sur lesquelles on va aller sur les lieux de vie, présenter Utopia aux personnes exilées, et puis les orienter vers les services pour demander l'asile en France et les informer sur l'asile en Angleterre, comment ça se passe. On va aussi faire beaucoup de réduction des risques au passage, puisque les assos non mandatés, on est les seuls à expliquer aux personnes quels sont les risques de tenter d'aller traverser en bateau et en camion. Et puis, notre troisième mission, ça va être la maraude littorale. Là, on va parcourir toute la côte, du Touquet à la frontière belge. Les soirs, les journées où la météo est calme et donc on suppose que les gens vont tenter de partir en bateau. Là, on va avoir une troisième équipe qui va essayer de rencontrer les personnes qui ont fait échec de tentative de traversée. Quand il y a eu un problème au départ, bien souvent c'est la police qui est intervenue avec une action très violente en perçant les bateaux, en utilisant des gaz lacrymogènes et de plus en plus en utilisant des flashballs. Et donc là, nous, Utopia, on va apporter une aide d'urgence avec des couvertures de survie, des vêtements secs, de la nourriture, de l'eau, et puis guider les personnes vers les bus, vers les trains pour qu'elles retournent là où elles souhaitent aller. Les personnes exilées, elles partent pendant 24, 48 heures, 72 heures. Elles se cachent dans les dunes, elles ne mangent pas, elles ne boivent pas. Et donc nous, on est là pour échanger avec eux et pour leur apporter de la chaleur aussi, parce que avec les températures en hiver, les hypothermies vont extrêmement rapide. Donc le fait de changer les vêtements, le fait de donner des couvertures de survie, ça permet d'empêcher les hypothermies. On va contacter les services de secours, bien sûr. Et aussi, sur cette maraude littorale, on va être présent au retour au port. Les retours au port, c'est quand une embarcation a été secourue par les gardes-côtes dans la Manche. Elles vont être ramenées au port de Boulogne-sur-Mer, de Calais ou de Dunkerque. Et là, on va essayer d'observer la prise en charge par l'État, qui est malheureusement souvent bien trop minime. Et donc on se retrouve avec des gens qui ont survécu à un naufrage, qui sont sortis du port sans avoir accès à des vêtements secs, sans avoir accès à de la nourriture, qui ne se voient pas proposer l'aide d'un médecin, l'aide d'un interprète. Et on, via cette maraude littorale, on collecte aussi les témoignages de violences policières qui sont extrêmement nombreuses sur les côtes françaises, et on essaie de visibiliser en fait ce qui se passe et de montrer aux Français, aux Françaises et aux étrangères l'action de l'État et comment cette politique à la frontière n'a pas de sens, puisque les gens sont empêchés de rester à Calais avec des évictions toutes les 48 heures des lieux de vie. Ils sont empêchés de monter dans les trains et dans les bus pour aller sur le littoral. Sur le littoral, elles sont empêchées de partir en bateau. Elles sont empêchées de remonter dans les trains pour revenir sur Calais ou Dunkerque. Et on est, en fait, nous, on milite pour, d'une part, des voies de passage sûres vers l'Angleterre, puisqu'elles existent. Il y a des ferries qui partent toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure vers l'Angleterre, et des moyens très sécurisés. et un accueil digne en France. Puisque sans proposer de solution à ces personnes, on sera toujours face à la même problématique et le nombre de morts va augmenter, comme on l'a vu l'année dernière avec l'année la plus mortifère de l'histoire de cette frontière.
Clairement, là, vous allez à l'encontre d'une politique qui est celle portée par le gouvernement.
C'est tout le jeu du gouvernement, d'essayer de criminaliser nos actions. Sauf que tout ce qu'on fait, c'est purement de la solidarité. On distribue de l'eau, des vêtements secs, et on aide les personnes à trouver des solutions d'hébergement d'urgence, puisque sans ça, ces personnes dorment dehors dans la boue avec des personnes handicapées, des femmes enceintes, des enfants très jeunes. Et nous, on est complètement révoltés des politiques actuelles menées par les gouvernements. Puisque, en fait, on fait le constat, on est là depuis 2015, mais la frontière, les gens, ils essaient de la traverser depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, les politiques européennes, la politique française n'a été que dans un sens, la répression, le blocage, l'empêchement de déplacement des personnes. Ça nous a mené à plus de gens qui sont ici, parce qu'ils ont toujours moins de solutions pour demander l'asile en Europe. Et surtout, ça va tuer des gens, en fait. C'est parce que c'est ça les conséquences directes de cette politique migratoire, c'est que ça tue des gens. Et nous, une fierté d'être français, ça serait de pouvoir accueillir les gens. Et je pense que ici, à l'entrepôt, on est tous d'accord avec ça. Et on est là aussi un peu par honte des actions de nos gouvernements européens. On est là pour montrer que l'Europe est une terre d'accueil aussi et qu'on n'est pas tous derrière cette politique de répression que portent M. Retailleau et M. Darmanin.
Demander des itinéraires de passage sûrs, des dispositifs d'accueil dignes, sortir de la logique sécuritaire pure et de la criminalisation, un plaidoyer régulier des associations et des partis situés à gauche de l'échiquier politique en Europe depuis près de 15 ans, sans succès, surtout depuis la crise migratoire de 2015 et l'arrivée massive de Syriens sur le territoire. Depuis, les débats ont été denses entre les pays, de nombreux textes et règlements ont été votés, comme le pacte asile et migration au printemps dernier. Cette semaine, cette fois, la Commission européenne a présenté les contours d'un règlement sur le retour, une reconnaissance commune des obligations à quitter le territoire, la mise en place de plateformes de rétention pour le retour des déboutés du droit d'asile. Mais du côté de l'extrême droite européenne, ce n'est pas suffisant, il faudrait même aller plus loin et financer des murs aux frontières. Et à l'instar de l'Italie, du Danemark ou de la Grande-Bretagne, certains veulent aller encore plus loin et l'idée d'une externalisation des camps de migrants au Rwanda ou en Albanie commence à faire son chemin. C'est la fin du séjour pour nos lycéens bénévoles. Après 5 jours passés à Calais, l'heure est au bilan. Une expérience qui les aura tous et toutes profondément transformés.
Moi, franchement, je trouve que c'est une expérience qui nous permet d'être plus terre à terre. On met un peu de côté les problèmes inutiles de la vie et on se concentre sur vraiment les vrais problèmes. Et puis on apprend à apprécier ce qu'on a déjà, en fait. Et c'est bien. Je pense que c'est bien d'ouvrir les yeux comme ça.
Pour ma part, c'est vraiment le principe de solidarité que j'ai découvert à fond cette semaine. Ça m'a permis de voir qu'il y a des gens qui s'occupent quand même de certaines causes et qui sont là pour eux. Et je suis un peu fière de moi d'avoir fait partie de ces gens pendant quelques jours. Je pense que plus tard, ce sera un objectif d'aider au mieux les autres.
Moi, je trouve que c'est bien de se rendre compte, ici à l'Auberge des Migrants, que derrière les maraudes, etc., il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent pour préparer justement ces maraudes, qui préparent des vêtements, qui préparent à manger, qui préparent du bois, etc. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière.
En fait, cette force humaine, je trouve ça fou. Tous ces gens qui sont là pour la même chose, ils sont pas payés, ces gars, pour être là. C'est fou, en vrai, ils sont pas payés, quoi. Je trouve ça fou.
Depuis ce tournage, les élèves sont rentrés à Nevers. Plusieurs d'entre eux ont déposé un vœu cette semaine sur Parcoursup pour intégrer Sciences Po Paris, avec qui le lycée a signé une convention. Donc merci à eux, Morgane, Avista, Salma, Juliette, Pierre, Gabriel. Merci à Séverine, la prof de SES, à Béatrice et à Patrick d'Amnesty International dans la Nièvre. Dans ces débats qui bousculent notre pays et le continent européen autour des questions migratoires, il nous semblait important dans cette émission de donner à entendre ce que les politiques publiques fabriquent concrètement à la frontière. Comment justement cette frontière et les discours politiques qui l'accompagnent et la dessinent façonnent ces espaces. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Léa Capuano et à son aide et à son regard précieux dans la préparation de cette immersion à Calais pour cet inédit. Un immense merci à Margot Page qui l'a réalisé de ses doigts de fée. À la technique, c'était Noé Chaban. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à commenter, à réagir par mail sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous répond. Et d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, très bon week-end évidemment sur France Culture.